Histoire vivante.
Colonisation. La Suisse impliquée.
Anaïs Kien.
Épisode 2. Des restes humains par milliers. Fabio Rossinelli est co-auteur avec Bernard Scher et Ahmed Köken d'un rapport rendu public en 2025 sur les restes humains issus de contextes coloniaux en Suisse. Un premier état des lieux de ses collections. En page de garde de ses un peu plus de 70 pages en 4 langues, on découvre une image. Une femme, debout, avec entre ses mains un crâne qu'elle expose avec résolution au regard des visiteurs. C'est une œuvre que l'on doit à l'artiste sri-lankaise Denet Pumakshiveda Arashige, une œuvre pour rappeler l'existence d'une collection de crânes et d'autres parties squelettiques que des chercheurs balois ont prélevées dans les années 1880 dans la colonie de Ceylan, pour leur, je cite, « recherche raciale ». Alors qu'officiellement la colonisation est aujourd'hui condamnée, à qui appartiennent ces morceaux de corps? Faut-il les rendre? Et à qui? Nous sommes au début d'un processus et à cette étape, il fallait compter ses collections, mais pour les compter, il faut définir ce qu'on cherche. Fabio Rossinelli.
Dans les champs patrimoniales et muséologiques, un reste humain désigne tout élément matériel provenant du corps d'une personne défunte. Ça peut être donc des os, ça peut être des crânes ou des corps complets, mais aussi des parties, si vous voulez, qui sont extraites à partir des corps humains, comme des cheveux ou encore des dents. Et tout ça, indifféremment de leur état de conservation et indifféremment aussi du fait que ces restes humains puissent être intégrés dans des objets, par exemple rituels ou pas. Et ça, c'est un peu la définition large de reste humain. Ensuite, comme d'habitude, on peut restreindre le terrain et viser des définitions un peu plus précises de reste humain, en l'occurrence, dans ce contexte-là. Et notamment, on parle souvent dans ce contexte de restes ancestraux, donc ancestral remains, pour reprendre l'expression originelle en anglais. Et c'est une expression qui incorpore le fait que avant de devenir des objets muséaux, des objets de collection, bien, ces restes humains étaient des personnes vivantes, si vous voulez, qui, en l'occurrence, étaient et demeurent encore maintenant ces personnes, disons, les ancêtres de communautés autochtones outre-mer, et ces communautés autochtones sont encore en vie. Donc on les appelle les communautés sources.
Les restes humains détenus par des musées et des institutions, c'est un sujet sensible. Et des lois s'en mêlent de manière variable en fonction des États.
Bon, cela dépend des législations en vigueur des pays concernés, c'est-à-dire des pays où ces restes humains issus de contextes coloniaux, parce que c'est de ça qu'on parle, se trouvent actuellement. Alors vous avez la France, par exemple, qui en 2023 a légiféré, ou en tout cas elle a ouvert la porte à des pratiques de restitution par rapport à la détention de ces restes humains, concernant notamment les collections publiques. C'est-à-dire que la France, à partir de 2023, elle a émané une loi comme quoi les restes humains issus de contextes coloniaux qui se trouvent dans des collections publiques françaises vont perdre leur caractère de inaliénabilité. Ce qui veut dire qu'ils, en l'occurrence, peuvent être restitués à des communautés sources. Or, il se doit qu'une demande de restitution arrive d'un État tiers, qu'il soit prouvé. Il y a donc un certain nombre de limites. Et en même temps, cette loi, elle se réfère uniquement à des restes humains qui datent d'après 1500. Donc, il y a là un autre enjeu patrimonial, si vous voulez, qui est protégé, qui, vous voyez. Alors, c'est un cadre légal en vigueur en France, qui est un peu limité, mais c'est déjà ça. En Belgique, par exemple, ce n'est pas forcément le cas, dans le sens que la Belgique, elle a depuis 2022 une loi qui détermine que certaines collections publiques de biens culturels, essentiellement, et puis collections de biens congolais, essentiellement, perdent leur caractère d'inaliénabilité, donc ils peuvent être en l'occurrence restitués, mais dans ce cadre légal, il est bien explicité que ça concerne les biens culturels justement. Ça ne concerne pas le reste humain et ça ne concerne pas les archives. Donc tout ce qui est reste humain et archives dans le contexte belge ne sont pas inscrits dans cette législation, si vous voulez.
Donc ne peuvent pas être restitués?
Non, pas pour l'instant, du point de vue légal. Vice-versa, tout ce qui est des biens culturels de provenance coloniale, notamment congolaise, parce que la plupart des collections de ce type-là en Belgique, ça concerne le Congo, dans ce contexte-là, oui, ils peuvent être éventuellement restitués. Alors, pour revenir à la Suisse n'a strictement aucune loi ou aucun cadre légal, à ma connaissance, qui aborde ces problématiques. Du point de vue fédéral, rien. Du point de vue cantonal, ça émerge quelque chose. Dans le canton de Bâle-Ville, par exemple, depuis 2023, il y a une loi cantonale qui exige de la part des musées cantonaux que ces musées-là fassent et mènent une recherche dite de provenance pour en savoir plus sur l'état de leurs collections, notamment les collections qui pourraient poser des problèmes au niveau de acquisition et de contexte historique d'acquisition. Alors c'est le seul canton suisse, à ma connaissance, qui a donc inscrit dans la loi cette mesure, cet instrument de, entre guillemets, encouragement à la recherche de provenance. Mais vous voyez, ça reste assez vaste et ce ne sont pas les restes humains qui sont particulièrement ciblés. Ils peuvent rentrer dans l'échantillon, mais voilà, c'est déjà ça. Et encore une fois, le fait que la Suisse ne dispose pas actuellement de cadre légal pour cette question n'empêche pas que certains musées, depuis un certain nombre d'années, comme le MEG, le musée d'ethnographie de Genève, s'engagent proactivement dans les questions de recherche de provenance et de restitution, notamment de restes humains, à des communautés latino-américaines ou dans d'autres parties du monde. Donc il y a des choses qui sont en route, mais ça reste encore sur un plan, je dirais, individuel, dans le sens institution individuelle ou canton individuel.
Le rapport de Fabio Rossinelli, Bernard Cher et Ahmed Köken nous donne les premières données pour comprendre la situation de la Suisse et celle d'autres États souvent voisins, où l'on trouve aussi des collections de restes humains. D'abord, les inventaires exhaustifs sont rares et les chiffres recueillis au cours de l'enquête suisse ne sont qu'un point de départ. Les auteurs ont contacté 34 établissements privés ou publics. Environ les trois quarts ont répondu à leur demande, ce qui fait donc un quart qui n'a pas donné suite et pour lesquels nous n'avons pas de chiffres à ce jour. Ces collections n'ont pas pu être comptabilisées. À ça s'ajoutent d'autres collections éparpillées dans les gymnases ou des collections locales. L'enquête n'a pas encore pu les débusquer. Et sur les 26 institutions qui ont communiqué des chiffres, elles l'ont fait sous la forme d'un chiffre minimal aussi. Le chiffre obtenu est donc une base à partir de laquelle on peut commencer à faire des comparaisons.
Le chiffre que nous avons répertorié avec toute la méthode scientifique qui va avec,
Fabio Rossinelli,
c'est un minimum de 4175 restes humains issus de contextes coloniaux qui sont conservés aujourd'hui en Suisse. J'insiste encore une fois sur le fait que c'est un bilan provisoire et minimal, susceptible d'être élargi à l'avenir. Alors, en termes comparatifs, on pourrait penser que ces 4175 restes humains de Suisse, de provenance coloniale, soit pas grand-chose par rapport aux 18 000, 20 000 qui ont été dénombrés en France, par exemple. Et puis, soit pas grand-chose non plus par rapport aux 9 000, 10 000 restes humains de provenance coloniale inventoriés en Allemagne. Or, bien sûr, il faut toujours considérer non seulement que l'Allemagne, par exemple, aujourd'hui dispose d'une taille démographique plus que 9 fois supérieure à la taille démographique de la Suisse, donc remettre les choses dans leur juste proportion, mais également le fait que la France, comme l'Allemagne ou comme la Belgique, contrairement à la Suisse, disposait à l'époque des faits d'un empire colonial formel et de plusieurs zones d'influence informelle tout autour du monde. Donc, ces données nous montrent que la Suisse, elle n'est pas en arrière par rapport à ses grands voisins. Et l'exemple le plus parlant dans ce contexte, c'est la Belgique. Parce que la Belgique, elle est peut-être un peu plus comparable en taille démographique, par rapport également à un certain contexte historique d'industrialisation, etc. Elle est plus comparable à la Suisse que d'autres pays qui sont beaucoup plus grands. Or, dans le cas de la Belgique, qui pourtant c'était la Belgique de Léopold II, c'était la Belgique du Congo belge, avec toute la succession des rois jusqu'au roi Baudouin et la décolonisation, elle avait le Congo. Alors, le travail effectué en Belgique, qui a été un travail assez minutieux pour répertorier les restes humains de provenance coloniale, donc conservés par les Belges actuellement, ce travail-là nous dit que la Belgique, actuellement, il a 749 restes humains de provenance coloniale. 749, rendez-vous bien compte, 749 pour la Belgique, anciennement coloniale, alors que la Suisse, officiellement non coloniale, en a plus que 4000.
La Suisse n'a jamais possédé de colonies, mais de nombreux Suisses y ont voyagé ou s'y sont installés. D'abord en Prusse orientale et en Espagne, ensuite sur les bords de la mer Noire et aux États-Unis. Comme John Sutter, qui fonde une Nueva Helvetia en Californie dans les années 1840. Et dans ce même siècle, on voit aussi apparaître un Nova Friburgo au Brésil, une Nueva Helvetia et une Nouvelle Berne en Uruguay. Dès les débuts de la conquête française en Afrique du Nord, des Suisses contribuent à la colonisation, comme à Sétif, en Algérie.
Dans les collections helvétiques, on trouve par exemple des momies. Je ne me réfère pas forcément aux momies égyptiennes, de l'Antiquité égyptienne, mais également des momies provenant du Pérou, de la Bolivie, qui sont datées plutôt du 19e siècle. Et ensuite, on trouve des crânes, beaucoup de crânes. Il y a une collection incroyable de crânes humains provenant d'Océanie, d'Asie du Sud-Est, à Bâle par exemple. Et la liste pourrait continuer avec d'autres parties de squelettes, d'ossements, mais aussi avec des restes humains, des parties de restes humains intégrées dans des objets, par exemple, cultuels. Donc, on trouve un peu de tout en Suisse, de ce point de vue. Les restes humains que nous avons répertoriés proviennent essentiellement des colonies, des anciennes colonies possédées par les anciens empires coloniaux. Ensuite, on est bien d'accord, des pays en Amérique latine, par exemple, même si à un moment donné on put trouver une indépendance politique, ils restaient sous l'égide, sous l'influence, plus ou moins directe ou indirecte, de l'impérialisme européen. Donc il y a également des pays latino-américains où les Suisses ont pu prélever un certain nombre d'objets, que ce soit culturels, mais aussi de restes humains. Alors, ce qui impressionne, mais ce n'est pas tout à fait nouveau pour le cas de la Suisse, c'est que, contrairement à l'Allemagne, par exemple, où la plupart des restes humains coloniaux en possession de l'Allemagne proviennent des anciennes colonies allemandes telles que le Rwanda, le Cameroun ou ce qu'à l'époque on appelait la Nouvelle-Guinée allemande. Voilà, pour le Belgique, c'est le Congo. Vous voyez, les anciens empires coloniaux, ce qu'on retrouve aujourd'hui en matière de restes humains dans les collections, proviennent de leurs anciennes colonies. La Suisse, qui n'avait pas formellement ses propres colonies, elle se trouve dans ses propres collections publiques, privées, des milliers de restes humains qui proviennent un peu partout dans le monde. Alors, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Oui, c'est nouveau dans ce contexte de recherche menée dans les musées, dans les collections. Mais cela confirme un acquis que l'historiographie a déjà montré par rapport au rôle de la Suisse dans l'impérialisme colonial, par exemple du point de vue commercial, comme quoi les réseaux commerciaux suisses s'étendaient sans distinction des nationalités entre empires et colonies, s'attendait un peu partout dans le monde. Et là donc, on retrouve ce même phénomène en ce qui concerne les restes humains issus de provenance coloniale qui se trouvent aujourd'hui en Suisse et qui, une fois de plus, proviennent d'un peu partout dans le monde.
Et on sait à quel moment ces restes humains arrivent en Suisse ? Il y a des périodes fortes ?
Il y a grosso modo la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e siècle, ce qui n'empêche que dans les périodes avant et après, je pense quand je dis avant, notamment à la période pré-industrielle ou proto-industrielle, enfin 18e, 19e, ce genre de trafic et de transfert était déjà en cours. Ensuite, il faut souligner tout de même que ce dont on est en train de parler, ça reste un terrain de recherche extrêmement austère et à défricher. Donc, on ne sait pas trop, c'est l'une des constats qu'on fait dans notre rapport, c'est qu'on ne sait pas trop les périodes, la provenance, les agents d'inquisition, comment tout ça se retrouve en Suisse aujourd'hui. On le sait pour certains cas qu'on a pu directement étudier ou qui ont été étudiés d'une façon globalement très marginale, dans le sens que ça n'occupe pas une place importante dans la recherche pour l'instant, cette question. Mais pour le reste, voilà, nous, on a essayé de défricher justement.
Ces restes humains qu'on trouve aujourd'hui sur le territoire helvétique sont rapportés pour la plupart entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Mais les informations manquent souvent pour comprendre d'où ils proviennent précisément et qui les a rapportés jusqu'ici.
Les groupes d'acteurs helvétiques qui se trouvaient outre-mer...
Fabio Rossinelli est historien et chercheur au FNS, le Fonds National Suisse.
Pour faire la récolte de restes humains, ce n'était pas forcément leur but prioritaire, mais ça rentrait dans leur pratique, étaient essentiellement des voyageurs, des colons, des explorateurs, des chercheurs scientifiques qui s'appuyaient sur les infrastructures coloniales qui étaient mises à disposition par les grandes puissances européennes dans leurs propres colonies et qui pouvaient donc mener des recherches, que ça pouvait finalement être vraiment une récolte de données brutes, de données matérielles à transporter à Zurich ou à Bâle ou à Genève pour ensuite, en milieu académique, effectuer des recherches dites raciales, les sciences dites raciales de l'époque, l'anthropométrie, le fait de mesurer les crânes, d'établir des comparaisons pour notamment juger de la différence entre les races humaines. Tout ça, la Suisse était devenue, dans la première moitié du XXe siècle, notamment avec ses trois pôles de Bâle, Zurich, Genève, une plaque tournante internationale pour les sciences raciales. Cela est documenté par quelques thèses de doctorat de Pascal Germann, par exemple, Bernard Scher, Caroline Montebello, qui vient d'achever une thèse de doctorat en histoire à l'Université de Genève sur le rôle d'Eugène Pitard et des anthropologues genevois. Donc, ce sont ces personnes-là qui étaient un peu les chefs de file dans ce qu'on pourrait appeler un marché académique. Vous voyez, c'était un marché académique dans ce sens-là. Ensuite, ça existait également des marchés d'art ethnographique, disons, un peu plus traditionnels, qui ne sont pas non plus beaucoup étudiés. Je peux citer la thèse de Audrey Doyenne, qui a travaillé sur le marché d'art ethnographique à Genève, par exemple, mais elle n'aborde pas la question des restes humains. Mais il est fort probable que les restes humains faisaient partie de ce marché, ne serait-ce que lorsqu'ils étaient intégrés dans des objets, par exemple, cultuels.
La recherche est en cours. Ces premières données seront augmentées au gré des recherches, de la bonne volonté des institutions et du financement de ces recherches. À l'heure où j'enregistre, on a probablement trouvé d'autres collections de restes humains quelque part dans les cantons. Cette première enquête a duré 2 ans et d'autres la poursuivront. Mais le décompte de ces restes humains en Suisse, s'il répond à certaines questions, il en pose aussi de nouvelles.
Lorsque nous avons lancé notre enquête et puis nous l'avons conduite pendant 2 ans, bon, on a trouvé d'un côté une bonne ouverture, une bonne collaboration, voire même de l'enthousiasme. De l'autre côté, les choses étaient un peu plus mitigées, mais quand même on a réussi, peut-être à la deuxième, troisième tentative, à obtenir quelques informations. Ou sinon, dans certains cas, que je ne vais pas mentionner ici, mais tout est dans le rapport et dans ses annexes, on nous a fermé la porte. On nous a tout simplement ignorés. Et je dis que cela dépend effectivement de la direction des musées parce que suivant la stratégie ou la politique muséale qui est mise sur pied et qui n'emprunte pas forcément une voie décoloniale, mais qui est plutôt dans une voie conservatrice, voire réactionnaire, alors les choses peuvent aussi ne pas bouger, ne pas avancer. Mais avec ce premier rapport d'ordre national, ce premier inventaire, cette première enquête, je pense que nous avons posé les bases pour ouvrir le débat.
Finalement, quel est le problème avec ces restes humains sur le territoire suisse?
Le problème, il est le suivant, c'est qu'il s'agit de personnes décédées dans des contextes coloniaux qui n'ont pas choisi elles-mêmes de devenir des objets muséaux, des objets de collection, et encore moins d'être transportés dans un pays qui n'était pas le leur. À tout ça, vous rajoutez que dans un certain nombre de cas, de façon tout à fait justifiée et légitime, les descendantes, ce qu'on appelle les communautés sources, réclament des informations, voire des restitutions. Alors, avec ce rapport, nous avons abordé ce problème qui fait que la Suisse ne devrait pas être en possession de ces restes humains. Mais globalement, l'ensemble de ces 4705 restes humains qui actuellement se trouvent en Suisse, d'après nos calculs, d'après ce que nous avons trouvé, pose problème dans ce sens-là.
On a passé d'une période, si vous voulez, où on a exposé même les êtres vivants, hein, comme dans des foires, ça c'était bien sûr au 19e, mais quand même, ça a quand même eu lieu, à la conservation de leurs restes, à l'exposition d'objets fabriqués avec des restes humains. On en a quand même un certain nombre au musée d'ethnographie.
Marc-André Reynold, professeur de droit de l'art et des biens culturels à l'Université de Genève, est organisateur en 2022 du colloque « Négocier l'humain, justice, éthique et aspects culturels des restes humains » au micro de l'émission « Tout un monde ».
Et la politique actuelle est de dire « on n'expose pas d'objets avec un quelconque reste humain, sauf bien sûr si on a pu avoir l'accord de la communauté concernée ». Nous avons ici à Genève en dépôt des squelettes pygmées qui suscitent l'intérêt de scientifiques. Encore plusieurs par année viennent les voir. Et il a fallu, par exemple, dans un cas entre la Tasmanie et un musée anglais, The British Museum of Natural History, décider que faire de squelettes tasmaniens que la communauté réclamait, mais sur lesquels le British of Natural History avait fait des prélèvements ADN. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces prélèvements? Finalement, une médiation a été faite et tout a été restitué, y compris les tests ADN, sauf que la communauté aborigène s'est engagée à les conserver dans un lieu secret, mais pas les détruire. S'il y a un intérêt scientifique supérieur qui se manifeste, il pourrait être mis à disposition du musée anglais.
Oui, et autre problématique abordée dans ce colloque, Patrick, la restitution de ces restes humains.
Oui, tout à fait, le retour dans leur communauté d'origine. Et parmi les cas évoqués lors du colloque à l'Université de Genève, la tête de Badou Bonzo II, le roi d'Ahanta au Ghana. Il a été assassiné par les Hollandais en 1838, restitué il y a 13 ans, dans un processus qui n'est pas jugé vraiment satisfaisant par Abena Yale de l'Université de Koblenz. Elle est spécialiste des questions de postcolonialisme et de restitution.
La restitution, du point de vue du profane, peut être considérée comme le retour d'un objet à son propriétaire. Mais pour les indigènes, que signifie cet objet? Il n'est pas objectivé. Il est lié à la spiritualité, à la métaphysique. C'est la restauration de ce dont nous avons été privés pendant tant d'années. Ce n'est donc pas seulement un retour au sens physique du terme. Il y a beaucoup d'éléments spirituels et émotionnels qui nous relient à notre histoire. Et c'est aussi une demande de pardon pour le tort qui nous a été fait.
Et pour Nana Kusekwesi, le premier chef de la communauté à Anta, qui est actuellement à Londres, cette restitution s'est faite sans véritable consultation avec les populations locales.
We knew they were going to bring the head. On savait qu'ils allaient ramener la tête, mais les discussions auraient dû commencer au niveau local pour que les communautés puissent décider des modalités de la restitution. Une délégation est arrivée à Accra, mais on ne savait pas ce qu'on allait faire de la tête. Il y aurait dû y avoir des discussions préalables pour préparer son retour, pour qu'on puisse préparer une cérémonie adéquate et l'accueillir dans un musée à son honneur, un lieu de réconfort pour nous, où son esprit serait là, avec nous.
Nous avons par exemple trouvé quelques crânes.
Fabio Rossinelli, historien et chercheur FNS.
Dit crâne trophée, donc qui n'avait pas une fonction de recherche soi-disant scientifique à l'époque, c'était vraiment un objet d'exposition, notamment qui provenait de l'Équateur, mais aussi de Sumatra. Et c'était un musée à Soleur, en Suisse alémanique, qui exposait ce genre d'objet dans les années, sauf erreur, 1910 ou 1920, dans une armoire qui avait été constituée pour ça. C'était une armoire nouvellement construite pour ces restes humains, d'après ce que nous avons trouvé dans des sources publiées de l'époque, donc dans ce qu'on appelle, dans le langage historien, des archives. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que l'institution concernée ne savait même pas d'avoir, au cours de sa propre histoire, conservé des restes humains de provenance coloniale. Parce que, en toute bonne foi, nous avaient répondu que non, ils n'avaient pas de restes humains chez eux, dans leurs histoires, etc. Et puis, on a sorti ces documents d'archives. C'était pas pour les mettre à l'épreuve, pour leur faire un test. C'était juste dans un dialogue collaboratif et constructif. Et cet exemple, il semble anecdotique, or il ne l'est pas du tout, parce que ça montre combien de choses restent à faire au niveau de recherche dans ce terrain spécifique. Donc, pour conclure là-dessus, oui, ça existait, des expositions, y compris dans des réalités plus périphériques de Suisse, avec des aménagements ou disons des dispositifs constitués ad hoc. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est en gros voilà, de voir comme quoi les institutions elles-mêmes peuvent ignorer une partie de leur passé en matière de collection. Donc le fait déjà d'avoir possédé des restes humains de provenance coloniale et en plus de les avoir exposés.
Donc c'est un grand champ de recherche qui s'ouvre.
Absolument.
Dans le prochain épisode, le patriciat suisse d'Ancien Régime se recycle dans les colonies. Tous les épisodes de cette série et des précédentes sont à votre disposition sur l'application Play RTS dans le fil de podcast d'Histoire Vivante. Histoire Vivante, c'est Anaïs Quin avec la collaboration d'Andrea Glanville et Daniel Zacker et Jérôme Nussbaum à la réalisation.